Ce qui est intéressant dans ce livre que tu viens de publier, de paroles et de gestes, c'est que finalement, avec un sujet extrêmement compliqué, comment se construit une identité collective, tu arrives à faire un plan extrêmement clair et à expliquer des choses qui sont très compliquées. Parce que comprendre ce que c'est qu'un judéo-convert, un maran, qu'il ne faut pas confondre avec des vieux chrétiens, avec des crypto-judaïsants ou avec des convertis mais catholiques, est une gageure que tu mènes à bon port et même pour le profane. Je pense que de ce point de vue-là, c'est indépendamment de tout nominalisme, ce que tu as voulu faire avec cet ouvrage est à la lisière entre la question du contenu confessionnel et personnel de la définition et communautaire et individuelle. Alors moi, ce que je me posais comme question, parce qu'effectivement il y a là beaucoup d'informations pour le profane, pourquoi en particulier ce livre de paroles et de gestes, maintenant, est-ce qu'il te semble qu'il y a un moment particulier qui se prête à la publication, surtout après tes travaux précédents ?
Oui, c'est vrai que Oui, ça fait bientôt 20 ans que je travaille sur les crypto-judaïsants ou Maran et l'Inquisition. Et c'est vrai que j'ai le sentiment d'y voir un peu plus clair. Et donc, j'avais envie de faire un peu ce livre, un peu un livre bilan, maintenant que je vois justement plus clair. D'autant plus que la notion de maranisme est vraiment devenue un peu un concept un peu passe-partout, qu'on utilise dans l'ensemble des sciences sociales, beaucoup en philosophie, dans justement ce rapport entre l'homme public, l'homme privé, la personne, par exemple chez Derrida, celui qui se déconstruit toujours, une forme de précurseur, d'une forme de modernité politique ou de GDIT plus identitaire que religieuse. Donc en fait, j'avais un peu envie d'essayer de montrer ce qu'on pouvait faire de cette notion en la situant. Puisque pour moi, effectivement, ça n'est pas un concept partout, c'est une réalité qui est vraiment située dans la péninsule ibérique, éventuellement dans les terres ibériques, mais ça on en reparlera j'imagine un peu plus tard, mais qui est située à une période donnée entre le XVIe et le XVIIIe siècle, et donc vraiment dans la péninsule ibérique soumise à l'Inquisition. Si on se situe plutôt en France ou en Angleterre, où on a aussi des formes de crypto-judaïsme, pour moi c'est autre chose. Donc j'avais envie vraiment de remettre les choses au clair et en même temps de désenclaver un peu ce champ pour montrer justement à utiliser l'ensemble des sciences sociales et montrer comment on pouvait utiliser ce laboratoire marin pour traiter d'un certain nombre de questions qui peuvent intéresser justement des non-spécialistes. Et c'est la raison pour laquelle dans cet ouvrage, j'ai déjà commencé à utiliser des comparaisons avec d'autres minorités qui sont un peu plus l'objet de mes travaux actuels et je l'espère futurs, notamment les crypto-catholiques en domaine britannique, les crypto-protestants en France. Donc d'autres réalités, d'autres minorités, et mon idée c'est justement que de pouvoir comparer avec d'autres groupes en situation de contrainte, d'autres minorités, mais aussi bien à la même époque, à l'époque dite moderne, mais aussi, pourquoi pas, effectivement, à l'époque plus contemporaine. Et il y a un des points, justement, que tu as un peu évoqué, ces rapports avec la communauté, notamment, donc de minorités, rapports en situation de contrainte et leur rapport, justement, à la construction communautaire, qui m'intéresse et qui me semble être aussi pertinente, pourquoi pas, dans le contemporain. Et aussi, donc je voulais effectivement peut-être que ça ne c'est vrai que c'est assez difficile, mais j'ai essayé, enfin, mon désir était aussi de le rendre accessible hein, peut-être à un public justement de non universitaire sur des questions qui pouvaient être plus familières comme la construction identitaire, la construction du soi, et également enfin le dernier point c'était également me confronter à des notions qui sont un peu des notions taboues dans les sciences sociales, qui seraient l'identité la communauté. Un peu les deux termes qu'on ne peut pas utiliser. Et effectivement, j'essaye justement de m'y confronter. Et souvent, on m'a dit, d'ailleurs, quand j'ai même choisi le titre, on m'a dit « Ah non, surtout pas, je voulais mettre construction identitaire. » On m'a dit « Surtout pas le mot identité, il ne faut pas qu'il apparaisse. » Donc bon, voilà, j'ai dû l'enlever à contre-cœur.
Mais en même temps, c'est du coup, c'est assez réussi, parce que l'idée de... Et c'est une idée que nous avons tous en commun, tous ceux qui travaillons sur les mondes ibériques, d'enlever ce caractère exceptionnel de l'expérience ibérique. Et on voit bien que tu es confronté au même problème et que cette volonté de comparer, de montrer en quoi ce laboratoire peut permettre de penser d'autres réalités qui ne sont pas si différentes, mais qui sont spécifiques en même temps. C'est, de ce point de vue-là, c'est tout à fait effectivement réussi. Alors moi, je me posais la question, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse quelqu'un qui travaille sur le monde, sur les mondes coloniaux, sur le versant américain de l'Empire hispanique. Alors toi, il y a quelque chose qui est très intéressant dans l'utilisation que tu fais des sources. Tu travailles beaucoup avec des sources inquisitoriales. Et donc la question est celle de savoir, je pense, à l'archive coloniale, évidemment. Est-ce que tu n'as pas peur de, comme c'est une critique qui revient très souvent, en utilisant ce type de source, d'arriver à une vision du marane qui est plutôt le marane fantasmé par les inquisiteurs, plutôt que l'idée que pouvaient se faire les individus qu'on a appelés maranes d'eux-mêmes. Donc, comment tu fais pour travailler avec ces sources qui sont un petit peu compliquées ?
C'est vrai que c'est un risque. Alors, en réalité, c'était là tout le challenge pour moi. C'est effectivement d'utiliser ces sources où globalement, il y a eu plusieurs courants dans l'historiographie en général de l'Inquisition et des minorités en monde ibérique ou même en Italie hein, où on trouve aussi des inquisitions. C'était effectivement de comment utiliser ces sources qui étaient des sources judiciaires, des sources judiciaires, mais qui étaient par définition biaisées. Donc il y a eu un premier courant qui les a utilisées un peu telles quelles dans la deuxième moitié du XXe siècle, et ensuite autre courant qui, à peu près simultané, mais qui s'est prolongé au 21e, où on a commencé à se méfier excessivement de ces sources en disant qu'on ne pouvait rien en tirer. Donc effectivement, là aussi, c'est un challenge d'utiliser ces sources et de voir comment on peut les utiliser. Évidemment, on a un précédent qui serait le précédent Ginsburg qui utilise justement des sources inquisitoriales, mais effectivement, dans le cas de Melanchio, ce sont des sources tellement extraordinaires que effectivement, la parole apparaît plus clairement. Donc, toute ma difficulté, la difficulté que j'ai eue en traitant ces sources, c'est justement de déceler un peu tout ce qui sortait du cadre, de la norme, un peu à la Ginsburg, évidemment, en toute modestie, mais sachant qu'effectivement, c'est très difficile lorsqu'on n'a pas un discours de type extraordinaire. Mais voilà, c'est toujours essayer de trouver en creux ce qui distingue, sachant que j'ai bien conscience, et c'est une réalité, qu'effectivement, ce sont des sources biaisées, que mon discours peut être contré assez facilement en disant de toute manière, voilà, on a forcément que le discours du tribunal, mais je pense tout de même que à ces endroits-là, que j'ai mis 20 ans justement à trouver, on peut lire tout de même la parole des acteurs jusqu'à un certain point, en y appliquant tout de même un certain nombre de filtres, en prenant des précautions, en essayant, dans la mesure du possible, de les comparer avec toutes les autres sources accessibles. Mais voilà, je pense que voilà, il est possible de les utiliser en prenant des précautions. C'était ça tout le challenge du livre.
En tout cas, tu montres très bien cette espèce de symbiose, si je puis dire, entre des crypto-judaïsants qui peuvent se servir même des édits de foi pour construire, pour bricoler leur propre manière d'être juif en cachette, de judaïser.
De judaïser, voilà.
C'est mieux, tout à fait, je me suis repris. De judaïser en cachette. Et donc là, on voit effectivement, je me disais, oula, c'est compliqué, ça doit être un travail finalement de presque au niveau de la dentelle, pour pouvoir déceler comme ça ces va-et-vient qui finalement font les deux images, l'image que les inquisiteurs se font et comment c'est en même temps performatif, en ce sens que ça implique aussi ça a des conséquences sur les judaïsants. Je pense notamment à cet individu qui dit qu'il était entré dans les prisons inquisitoriales catholiques et qu'il en était ressorti juif.
Oui, accompli, expert,
accompli. Voilà, et ça, je pense que tu tires effectivement un bon parti de ces questions-là. Il y a autre chose qui m'a beaucoup plu, mais en même temps je me demandais est-ce que c'est pas risqué, c'est cette démarche qui va, parce qu'il y a 7 chapitres, et à chaque chapitre, tu poses une question à laquelle le chapitre suivant vient apporter un bémol. Et donc ça, c'est une succession de questions. Et donc les maranes qui se construisent par opposition à la société englobante chrétienne, les maranes qui se construisent par cohésion interne aussi, etc. Et je me demandais, est-ce que c'est un parti pris méthodologique ou c'est juste ton parcours intellectuel lorsque tu t'es confronté aux différentes questions qui constituent cet ouvrage ?
Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si j'ai vraiment compris cette structuration. Et en même temps, effectivement, au moment d'écrire justement la quatrième de couverture de l'ouvrage, j'ai eu l'image du kaléidoscope. Et je pense que c'est ça, c'est-à-dire de bouger au fur et à mesure un peu l'objectif pour avoir une image différente et donc attaquer l'objet un peu d'une certaine manière à la manière des cubistes ou pour montrer toutes les faces, sachant qu'effectivement on prend le risque de souligner à l'excès un aspect. En espérant que le lecteur lise le chapitre suivant qui viendrait nuancer.
Oui, c'est ça.
Mais c'est vrai que oui, ça suit mon cheminement. C'est vrai que cet ouvrage, comme je le disais au départ, a mis nombreuses années à être construit. Il y a eu beaucoup d'allées et venues entre des articles où j'ai pu ponctuellement développer un aspect qui n'apparaît pas forcément dans l'ouvrage, mais qui touchait, qui m'a permis d'avancer loin. Il y a vraiment eu de va-et-vient. Donc, il se construit vraiment sur la durée. Et au final, oui, ça reproduit d'une certaine manière mon cheminement intellectuel, mais qui, effectivement, rend les chapitres très... très interdépendant en fait, c'est-à-dire c'est un peu multiplicité de touches, un peu comme effectivement le tableau de Guy Bresse, oui, qui apparaît en couverture, c'est un tableau très 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 composite avec ces objets complètement hétéroclites qui forment un ensemble avec en l'occurrence le rideau qui préserve cette part de cachet puisque effectivement le secret a une grande importance dans l'ouvrage et dans la vie de ces marranes et sachant qu'effectivement il y a toujours une part d'incompréhensible dans tout travail scientifique. Et
alors il y a autre chose qui m'a moi beaucoup marqué, c'est que il y a la question de la méthode où il y a des questions qui sont posées et des questions qui viennent comme réponse aux questions qui ont précédé, mais il y a une autre démarche qui m'a beaucoup plu, et c'est une sorte de tentative de faire des cercles concentriques autour de l'expérience individuelle et ainsi de suite. Et notamment autour de cette question, il y a quelque chose qui m'a frappé. Tu fais des descriptions qui sont j'ai trouvé poignantes, et je me disais, tu notamment en ce qui concerne l'approche individuelle, tu décris à un moment le moment où l'enfant apprend, l'enfant qui a été élevé comme un chrétien apprend de ses parents quelle est leur véritable foi. Et je me disais, est-ce que cela veut dire que tout marane est en quelque sorte quelqu'un qui a vécu une déchirure identitaire dans l'enfance ? Comment vois-tu cet aspect que moi j'ai pris un petit peu comme une espèce de rite d'initiation ou un passage important mais qui devait être très compliqué. Tu dis que ça s'appelle ouvrir les yeux.
Au sens de Saint Paul, parce qu'effectivement, je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'un certain nombre d'expressions, alors c'est toujours le problème encore des sources inquisitoriales avec les différents prismes, le vocabulaire paulinien était très présent, et donc il y a fermer les yeux, ouvrir les yeux, l'idée de corps aussi qui est très très présent chez Saint Paul et qui est aussi présente beaucoup chez les marranes, en tout cas tels qu'on les perçoit. Alors cette idée effectivement de passage, d'abord tous ne sont pas convertis dans l'enfance, effectivement certains ont ce passage durant l'existence mais c'était effectivement pour c'était effectivement pour essayer d'estomper un peu cette idée d'évidence que tous étaient nécessairement crypto-judaïsants parce que leur famille était crypto-judaïsante, que ce passage se faisait aisément, alors que l'on sait qu'effectivement, par exemple, dans le cas des crypto-judaïsants ou des marranes qui vont ensuite dans les congrégations juives officielles qui ont encore un nouveau passage, ce passage est très douloureux et beaucoup ne réussissent pas et doivent sont amenés à revenir ou sont passés repasser au catholicisme ou passer au protestantisme. Enfin, il y a effectivement ces va-et-vient que j'avais traité dans mon premier livre sur Juan de Prado. Donc effectivement, c'était rendre un petit peu cette part d'humanité Voilà, de ôter de l'évidence qui est souvent attribuée à l'ensemble de ces individus.
Oui,
Voilà.
mais c'est vrai que là, c'est, enfin, je comprends très bien. J'ai bien vu qu'en fait, effectivement, c'est pas forcément dans l'enfance que ça se passe. On a des exemples de gens qui ouvrent les yeux bien plus tard. Mais c'est vrai que l'aspect de, et je pense notamment à l'exemple de cet enfant qui, pendant la confession, dit quel prénom dois-je dire? Est-ce que celui de la maison ou celui de l'extérieur? Et le curé lui demande, mais comment tu t'appelles à la maison? Abraham. Et comment tu t'appelles à l'extérieur? Francisco. C'était particulièrement révélateur de ce que pouvaient vivre des enfants qui ne pouvaient pas tout comprendre. Donc c'est pour ça que je pensais à cette idée de déchirure. Mais enfin, effectivement, je pense que ça ne fait que donner une facette de plus finalement à cette construction qui est compliquée et qui n'est pas de l'évidence du christianisme ou du catholicisme
Voilà.
pratiquant ou du
Voilà.
judaïsme par
C'est, voilà,
opposition.
c'était d'échapper à la dualité,
Tout à
de
fait.
rendre cette part d'humanité tout en ne cédant pas à effectivement une historiographie ou un regard très, très romanesque qui héroïse un peu ces marins-là face à l'Inquisition et voilà, des héros de l'époque moderne, raison pour laquelle effectivement ils sont assez, c'est un thème assez populaire, il donne lieu justement à un certain nombre de romans. Donc je voulais restituer cette part sans céder à cette sorte de héroïsation et en même temps de d'essentialisation des marins. Donc c'était effectivement là aussi un entre-deux difficile.
Ah oui. Alors il y a un autre entre-deux, et parce que tu parles justement d'héroïcisation, etc.
Héroïsation, oui.
Voilà,
Tu peux bien me corriger.
je ne sais pas, j'ai entendu.
Oui.
Et je me demandais, tu parles aussi à usage interne sur les mythologies des origines, sur les mythes des origines, et qui sont toujours fondamentales dans la construction d'une identité de groupe ou d'une identification de groupe. Et est-ce que tu peux en dire plus? Parce qu'en fait, du coup, ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant et qui, à mon sens, donne un côté beaucoup plus dynamique à ta manière de voir les choses que justement à chercher l'identité cachée qui serait là comme un diamant brut sous le charbon. Est-ce que il y a un rôle fondamental dans l'économie de l'ouvrage de cette question de ces récits de ces qui sont le pendant en quelque sorte des récits des nations européennes en quelque sorte?
Oui, des nations et des inventés.
Oui.
Oui, disons qu'effectivement, alors déjà il y avait un matériau assez riche et assez exceptionnel justement qui sortait un peu du cadre de l'horizon d'attente des inquisiteurs. Donc effectivement, je m'en suis saisie dès que j'avais ces occurrences-là de référence aux filiations imaginaires, enfin extraordinaires, de toute cette invention de tradition. C'est-à-dire qu'à la fois,
Oui, c'est
effectivement,
ça.
c'est la raison pour laquelle je parle d'invention d'une tradition et de tradition plurielle, de pratique et en même temps d'une tradition. Donc c'était déjà un matériau extrêmement riche à mon sens puisqu'on pouvait y lire quelque chose. Et ensuite, c'est vrai que c'est une donnée assez fondamentale au sens où là je reviens un peu à ce que je disais au départ au moment où je voulais m'attaquer à cette notion toujours très très problématique de communauté, de définition. Et à mon sens, c'est vrai que cette dimension imaginaire de construction du groupe, de construction de soi comme maillon d'un groupe, et cette dimension imaginaire est fondamentale. C'est vrai que pour moi, plus que les pratiques, puisqu'effectivement je montre que en réalité, ça n'est pas tant un contenu de pratique précis, mais plutôt une ritualisation, le processus lui-même, mais le sentiment d'appartenance qui compte. Du coup, effectivement, ce processus continuel d'invention à la fois pratique, mais aussi de tout un imaginaire est fondamental. Donc c'est vrai que c'est à la fois ces filiations, ces mythes de l'origine sont fondamentales. Mais c'est vrai aussi que c'est un peu comme le roman familial qui construit l'individu. Et là, ce serait un roman familial à la fois individuel et en même temps collectif.
Oui, tout à
Et
fait.
donc c'est vrai que c'est parce que c'est vrai que je me suis Bon, j'avais au moment où, à un certain moment de l'écriture de cet ouvrage, c'est vrai que j'avais beaucoup lu en psychologie sociale, où j'avais trouvé énormément de choses, et notamment de Carmel Camilleri et d'autres. Et donc c'est vrai que j'avais trouvé beaucoup de points de ressemblance, surtout sur les enfants d'immigrés. Enfin, il y avait beaucoup d'éléments de passerelles.
Oui. Il y a aussi quand même la question de la clandestinité qui est un vecteur très puissant. Et tu montres en fait que la clandestinité, bien sûr, elle implique des recompositions identitaires, mais elle entraîne également des conséquences sur tout ce qui touche au rituel, tu dis de parole et de gestes, au rituel et notamment la place centrale que prend le foyer comme temple, dirais-je, puisqu'il n'y en a pas d'autre. Alors, moi, c'est la question que je me posais, c'était est-ce que tu pourrais nous en dire plus, d'une part, et puis surtout, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres lieux possibles ? En fait, on aurait pu imaginer la maison, effectivement, temple, mais peut-être qu'il y a d'autres lieux physiques qui auraient pu devenir, comme pour les protestants, des lieux de culte clandestin. Donc, parce que ce que tu dis sur la maison est fantastique. J'aimerais bien, parce que si j'ai bien compris, la maison culte intronise toute une série de pratiques existantes ou inexistantes, qu'on réinvente, pour essayer de sacraliser le temps profane, en quelque sorte.
Oui. Est-ce que... Disons que c'est vrai qu'il y aurait pu avoir d'autres espaces, des espaces interstitiels, où, comme chez les crypto-protestants en France, avec les assemblées, dans les clairières. C'est vrai qu'une des particularités tout de même des marranes, c'est d'être des urbains. Ouais. Donc déjà, à partir de ce présupposé, les modalités d'investissement d'un espace sacré changent par rapport, forcément. Après, il y aurait pu avoir d'autres espaces. Par exemple, j'ai un collègue dans le cadre de mes travaux sur le rapport entre les diasporas et l'espace urbain qui montre justement comment les jardins peuvent être investis justement par des minorités religieuses. Dans certains cas, effectivement, à Madrid ou pas, où on a ce grand parc du Parc del Retiro, où on peut effectivement l'utiliser. Mais c'est vrai que l'espace dit privé, ou en tout cas la zone alentour, est privilégié. Et c'est vrai que je l'ai lu un peu, en suivant un petit peu les travaux de Michel Eliade, justement comme un espace sacré. Mais en fait, que l'on retrouve à bien des égards, par exemple chez les crypto-catholiques en Angleterre, où alors qu'on est dans un espace rural, des grandes maisons de la gentry, on a quand même une sacralisation de l'espace qui passe avant tout par l'imaginaire. Là, on ne parle pas des églises cachées, mais vraiment toute une construction. Donc je pense que c'est un phénomène qui, même en espace, dans les cas d'espace rural, porte effectivement, puisqu'on a un recentre, porte une vocation à la sacralité, puisque justement, également, c'est aussi l'importance de la famille, ça va avec. C'est-à-dire que la famille, comme il n'y a pas d'autorité instituée, la famille devient porteuse, effectivement, de cette autorité. Et d'ailleurs, effectivement, au moment, souvent, un certain nombre de passes, en tout cas, un certain nombre, une partie d'entre eux passent un crypto-judaïsme moins répressif, par exemple en France. Et là, effectivement, il y a un choc justement entre cette autorité familiale liée au foyer et l'autorité instituée liée à des espaces de culte officiels ou en tout cas clandestins, mais suffisamment, en tout cas extérieurs de la cellule familiale. Et là, il y a un choc qui se produit.
Et est-ce qu'il y a un choc aussi important? Parce que tu montres bien aussi que dans ce caractère domestique, finalement, du culte, il y a une figure qui est fondamentale, celle de la femme. Oui. Est-ce qu'il y a aussi, à ce moment-là, une tension entre le rôle dévolu à la femme dans les groupes marins et, une fois qu'il passe en terre de plus grande liberté d'exercice de pratique de la foi, finalement, peut-être qu'il y a une déperdition de cette importance
Bien sûr, il y a une déperdition. Alors, là encore, le rôle de la femme n'est pas totalement inédit dans d'autres groupes minoritaires. Il est moins présent chez les morisques, donc le pendant musulman des maranes, mais en revanche, on le trouve très présent chez les crypto-catholiques, où sont vraiment les femmes de la gentry qui portent cette religion. On le trouve un peu chez les crypto-protestantes, moins peut-être. Mais il est vrai que chez les maranes, un certain nombre de pratiques qui sont liées justement à la figure féminine, comme celles dont je parle beaucoup, qui sont celles des jeûneuses professionnelles, donne effectivement une importance, une visibilité culturelle autre aux femmes et une fonction sociale dans la cohésion du groupe très forte. Et il est vrai qu'on voit chez ces individus qui passent, par exemple, des terres dites de liberté, c'est-à-dire comme la France ou l'Angleterre, où on n'a pas de congrégation officielle, mais on a une moindre répression, puisqu'on n'a pas l'inquisition. Et ensuite, dans les congrégations officielles, on voit effectivement une perte de ces fonctions, mais qui vont avec aussi à la perte de sens d'un certain nombre de rituels, puisque par exemple les jeunes sont remplacés par des rites plus normatifs. Donc effectivement, il y a un passage, et aussi dans l'imaginaire, puisque par exemple, justement, ce qui est le plus représentatif, par exemple, c'est la fête de Pourim, que les marins appellent effectivement le jeûne de la reine Esther. Esther, donc la figure d'Esther, la première marraine de l'histoire, et qui redevient Pourim dans les communautés officielles. Donc effectivement, il y a un changement de nom qui, pour moi, est symbolique justement de cette perte, de ce retour à la tradition et normative, à la norme, voilà, à la norme des femmes.
Mais c'est très intéressant, ça me permet de rebondir en fait sur l'autre question que je voulais te poser, et en fait c'est rigolo parce que tu parles finalement d'un passage à dans les communautés plus établies, en terre de liberté, et qui se traduit finalement par une perte de toute une série, tout un rituel. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un renversement par rapport à la vision habituelle qui voit dans les pratiques maranes une perte par rapport aux normes de pureté de la tradition juive. Mais moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ton ouvrage, c'est justement que tu montres, tu analyses les pratiques maranes, non pas du point de vue de la déperdition, mais du point de vue de la créativité, c'est-à-dire comment, ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire le fait qu'ils investissent le quotidien d'éléments de sacralité. Alors, en ce sens-là, il y a aussi autre chose qui est intéressante. Tout à l'heure, je disais que tu procèdes par touches, comme ça, qui posent quelque chose, et ensuite tu poses des nouvelles questions. Il me semble également qu'il y a, dans ce que tu décris, donc un investissement, peut-être une invention de nouveaux rituels qui visent à donner une contenance rituelle à quelque chose qui effectivement, on est loin des textes normatifs, on n'a pas d'éléments pour alimenter l'aspect rituel. Mais en même temps, il y a peut-être une tension qui se génère là entre peut-être une critique à l'intérieur du groupe marane vis-à-vis de rituels qui paraissent peu conformes. Et donc là, il y a quelque chose qui est très intéressant parce que tu montres qu'il y a parallèlement une tendance à finalement une intériorisation de plus en plus forte de la foi, ce qui peut être le pendant d'un mépris, peut-être mépris c'est un mot fort, mais en tout cas d'une distance vis-à-vis du rituel en tant que tel. Tu cites, à un moment j'avais pris une citation, les conseils d'un père à son fils qui lui disait finalement le rituel ce n'est pas si important, il lui disait vous n'aurez le cœur qu'en Dieu sans vous aventurer à des pratiques qui ne servent à rien. C'est-à-dire que finalement la conscience du fait que finalement tout ce bricolage, cette inventivité, on a conscience qu'on est en train d'inventer, ça mène certains à avoir un regard un peu critique. C'est bien. Alors est-ce que c'est une tension à l'intérieur du groupe ou c'est une vision a posteriori, en termes analytiques, on peut déceler là-dedans. Est-ce qu'il y a véritablement à l'intérieur une tension entre rituel et gestes réinvestis et groupe et personne, individualité qui voit cela comme finalement quelque chose de sur laquelle il ne faut pas trop s'attarder, il vaut mieux se concentrer sur une foi intériorisée.
Oui, il y a plusieurs choses. Alors, c'est vrai que ce que tu disais au départ, c'est vrai qu'une des points sur lesquels je voulais insister dès le départ, c'était de ne pas réduire le maranisme à une forme de syncrétisme, soit en rapport avec le catholicisme qui l'aurait absorbé, et soit en rapport avec le judaïsme. C'est-à-dire qu'effectivement, je voulais sortir et, d'une certaine manière, voir ça comme une structure qui aurait sa propre raison d'être en soi et ses propres référents. Donc ça, c'était effectivement un point de départ qui me semblait important et qui pose d'autant plus de problèmes dont la notion même de religion syncrétique est problématique elle-même, puisqu'on a toujours deux référents. Donc, mais bon, c'était une volonté vraiment très importante dès le départ, et sachant qu'effectivement c'est une réalité mouvante. Donc ce dont tu parles, effectivement cette tension sur le problème de l'intériorité, je pense qu'effectivement il y a une forme effectivement de critique, de conscience, alors qui est intérieure au groupe et à certains individus peut-être plus cultivés. Celui dont le père dont tu parles, effectivement, c'était effectivement un médecin qui était un médecin dont les proches étaient médecins des ducs d'Albe, donc vraiment une élite tout de même, dont le fils lui-même était médecin, a fait des études, donc c'était effectivement plutôt une élite qui avait tout de même conscience de leur défaillance. Mais en même temps, c'est effectivement une critique qui venait de la diaspora. Donc il y a ce que je montre, c'est qu'il y a une forme aussi de perméabilité entre des allers-retours, des négociants, ils savent qu'effectivement il y a ce regard critique et ils sont conscients de ce problème. Et chez un certain nombre, on sent justement ces tentatives de justification. Donc soit par l'intériorité, soit effectivement en disant, voilà, effectivement, il faut créer ses propres, s'adapter au quotidien, créer ses propres pratiques, ou un investissement de type messianique, et donc en faisant d'eux-mêmes et du groupe des martyrs qui travaillent pour le salut des autres, donc en réalité en excusant justement. Donc ce sont différentes formes de réponses
Oui.
pour justifier justement cette défaillance. Je dirais que donc l'intériorité effectivement est bien mise en valeur, on sent effectivement cette intériorité, mais que souvent elle accompagne tout de même, il n'y a pas forcément une critique du rituel, mais plutôt d'accompagner le rituel du sentiment de Dieu, du sentiment de la foi, de l'appartenance au groupe. Et en revanche, effectivement, c'est toujours le geste et le processus lui-même qui importe plus que le fait lui-même, en réalité. Donc on peut ajouter des choses, plus on ajoute, plus on complexifie, plus on fait les jeûnes avec rigueur, plus effectivement on est légitime.
En quelque sorte.
Voilà.
Et par rapport à cette question de la piété intérieure, je me posais la question parce que finalement cette insistance sur la foi intérieure, quelle que soit par ailleurs, enfin, ce qui m'intéresse de ce point de vue-là, c'est le fait qu'elle apparaisse comme catégorie pratique, c'est-à-dire les individus eux-mêmes y font référence, indépendamment de ce que l'on peut nous autres en faire, historiens, pour l'analyse. Mais cette question de la foi intérieure, finalement, elle établit finalement un pont avec d'autres, des protestants, des catholiques, qui à la même époque sont en train de poser les mêmes questions et de dire les mêmes choses avec cette espèce effectivement de tension ou de relecture du rituel à l'aune de la foi intérieure. Je pense évidemment à Luther, je pense évidemment à Ignace. Est-ce que finalement c'est pas un élément de convergence et qui, à nouveau, et si j'ai bien compris, c'est un petit peu un de tes chevaux de bataille. C'est-à-dire, ça réintègre à nouveau l'expérience marraine à l'intérieur d'expériences au pluriel plus vastes qui sont en train d'avoir lieu en Europe à la même époque.
Oui, tout à fait. C'est effectivement, de toute manière, toujours dans mon désir de désenclaver, mais ce n'est pas simplement un désir personnel, c'est une réalité. C'est-à-dire, ce sont des individus, pour un certain nombre, par exemple, qui ont été à l'université, qui fréquentent. Toute la problématique, une des problématiques de l'ouvrage, c'est effectivement de traiter à la fois leur lien dans le groupe, dans leur famille, dans leur communauté, mais aussi avec le reste de la société, donc ils sont partie intégrante, bien entendu, et il ne faudrait pas effectivement céder à la tentation inquisitoriale de le mettre en avant que leur lien interne et ne pas. Donc, ils sont effectivement sensibles à tous les courants, et ça, je l'avais fait par le passé, je l'ai un peu repris dans cet ouvrage, mais pas trop, pour montrer justement comment chez les marranes les plus convaincus pouvait coexister justement cette foi avec des tendances déistes, par exemple, avec des allers-retours spirituels, avec donc multiplicité en réalité de courants, de sentiments d'appartenance. Et donc effectivement, ils sont partie intégrante et donc subissent les mêmes éléments, les mêmes effectivement les mêmes courants, les mêmes les, voilà les mêmes questionnements, mais qui ne sont pas forcément effectivement exclusifs les uns de l'autre. Et là, c'est effectivement toujours avec ce tableau, c'est l'idée qu'effectivement il y a cette diversité, mais qu'elle n'est pas voilà, elle est composite en réalité, elle est très mouvante, très labile, et donc c'est effectivement réintégrer, sachant que souvent ce champ-là, c'est toujours un peu ce que je disais au départ, a tendance à le champ déjà du religieux ou même de la péninsule ibérique par rapport à l'histoire européenne ou l'histoire du judaïsme, tout ça, effectivement, a tendance à être enclavé dans une
Tout à fait.
spécialité, être sorti du cadre, alors qu'en réalité, non seulement elles sont partie intégrante, donc c'est une erreur fondamentale, mais en plus, elles apportent un autre regard, et c'est ce qu'on dit souvent, bien, tu apportes un autre regard sur quelques aspects, ou même voilà, sur l'histoire de France, quand il s'agit des cryptos en français, donc c'était un peu effectivement mon. Oui, un de mes chevaux de bataille, mais en réalité qui correspond effectivement avec, je pense, une réalité historique.
Ouais. Et moi, je vais faire un petit peu de mouchnik là, parce que en fait, je te posais une question sur finalement la convergence et le caractère commun de toutes ces problématiques. Et du coup, je te dis, mais et comme dirait Galilée, pour si mauvais. Mais tout de même, il y a un besoin de se construire des barrières, ne serait-ce que pour ne pas subir les attaques de l'Inquisition. Et tu montres dans ton ouvrage la centralité, on n'a pas évoqué jusqu'ici, la centralité du monde portugais, c'est-à-dire de l'expérience des judéo-converts qui viennent du Portugal, à tel point que un bon nombre de rituels se disent en langue portugaise. Et donc je me demandais justement si c'était pas en quelque sorte le pendant de cette immersion dans le monde dans la communauté plus globale à laquelle ils appartiennent tous, c'est-à-dire la communauté des catholiques castillans, on va dire comme cela, eh bien, c'est cette importance fondamentale, pivot, le rôle pivot qui est dévolu à ces communautés d'origine portugaise, est peut-être un des moyens de construire des barrières de groupe. Enfin, comment vois-tu cette importance, tout de même assez remarquable, de la question lusophone ou portugaise dans la constitution du groupe Marane à l'époque que tu étudies?
Oui, c'est vrai que pour moi, il y a véritablement une matrice portugaise, mais en réalité, ce n'était pas tant un présupposé que plutôt une coïncidence avec cette période qui, pour moi, est celle du maranisme au sens où moi, je le définis, bien entendu, donc situé, qui serait des années milieu du 16e siècle jusqu'au début du 18e siècle, avec les caractéristiques que je lui donne ici, et qui coïncide effectivement avec ces courants de population, sachant que, bon, effectivement, c'est ce que j'explique, c'est ce qu'on me dit souvent, mais que alors qu'en Espagne, il y a une coïncidence une préexistence entre l'Inquisition, qui est fondée en 1478, et l'expulsion des Juifs, et donc leur conversion, pour un certain nombre d'entre eux, en 1492, et donc une explosion du phénomène judéo-convert et éventuellement crypto-judaïsant, alors qu'effectivement au Portugal, il y a 40 ans entre l'expulsion de 1496-97 et la création des tribunaux en 1536. Donc effectivement, on a tendance à penser qu'il y a un temps où les communautés ont pu se construire avec le secret, dans une relative liberté, et qui donc ont pu maintenir un certain nombre de rites, sans compter qu'il y avait une importance numérique, puisqu'un certain nombre des expulsés d'Espagne sont passés au Portugal, et que effectivement les ports ont été fermés, et donc ils sont restés aussi dans les montagnes du nord, donc dans des domaines peut-être parfois plus isolé. Et donc, avec les courants migratoires, avec l'unité ibérique en 1580, effectivement, un certain nombre d'entre eux sont venus. Et donc, à certains égards, ont pu raviver, ou en tout cas, pas forcément raviver, quelque chose qui avait disparu, qui était le crypto-judaïsme, qui avait relativement, par des processus sociaux, peut-être d'assimilation, disparu, mais aussi ont eu leurs propres pratiques, éventuellement. Après, ça coïncide avec une chronologie propre des tribunaux d'inquisition, enfin, on peut discuter de cela. Mais donc, il se trouve qu'effectivement, la matrice portugaise a de fait eu une importance. C'est un signe distinctif, mais il est vrai aussi que si on regarde, et là je reviens un petit peu à ce dont je parlais avant, de la psychologie sociale sur les immigrés, les Portugais étaient des immigrés en terre ibérique, en terre hispanique. Donc de fait, il y a cet élément comme de l'immigré avec un accent différent, un nom différent, il n'appartient pas à cette mémoire locale, et donc il apparaît comme étranger, qui de fait soude. Ça aurait pu être le Portugal, comme ça aurait pu être un autre pays, mais il se trouve qu'effectivement le Portugal est suffisamment proche et en même temps distinct pour pouvoir être investi.
Oui, mais ce que je retiens, c'est effectivement la potentialité du fait, tu dis, ça aurait pu être autre chose, mais
oui, de fait, oui,
pour pouvoir justement avoir des signes distinctifs et se reconnaître, et en plus qu'à l'époque il y avait une espèce d'homonymie entre Portugais et Juifs ou judéo-converts,
oui.
Et donc
dans toute l'Europe,
et donc du coup effectivement on voit là cette coïncidence. Mais je me disais, mais est-ce que ce n'est pas aussi une manière d'avoir un signe de distinction, alors qu'on en a besoin? Bon, tu sais bien, travaillant sur des élites coloniales qui ont ce type de comportement, c'est-à-dire qui utilisent les mouvements migratoires comme des manières de toujours devenir de plus en plus étrangers dans leur propre pays, hein, pour reprendre le terme d'une sociologue allemande, je me disais, voilà des gens qui sont du cru, mais qui, par l'arrivée des Portugais, parviennent à avoir des signes distinctifs qui sont à l'usage par rapport aux autres, mais également pour
par rapport à eux-mêmes, bien sûr,
en eux-mêmes et je me demandais si ce parallèle te paraissait pertinent avec ces élites coloniales qui sont également des petites minorités hispaniques en milieu qui ne l'est pas et qui s'alimentent de gens qui sont plus mobiles. Est-ce que c'est un petit peu pousser le bouchon ou ça te paraît un parallèle qui peut être fonctionnel pour certaines analyses?
Je ne sais pas, j'ai tendance à penser que le laboratoire colonial est toujours très utile et révèle énormément de choses que la métropole ne révèle pas. Sachant qu'effectivement, dans le cas colonial, il y a d'autres données de différenciation avec le problème des métissages, qu'on trouve moins, en tout cas en moindre mesure, en Europe. Mais effectivement, c'est l'élément portugais a cette particularité effectivement d'être toujours dans entre le semblable et le différent et donc d'être un élément totalement différencié, trop étranger, ne serait pas forcément approprié de la même manière. C'est-à-dire, c'est justement cette capacité à être entre deux. Voilà, un peu le semblable et différent, un peu l'inquiétante étrangeté de Freud, c'est pour ça que j'utilise cette notion, celui qui est à la fois semblable et en même temps légèrement différent, comme un peu comment on appelle ça, la marionnette effectivement qui semble humaine mais qui n'est pas totalement et qui pourtant est trop saccadée pour être totalement humaine. Et donc effectivement, je pense oui, les élites coloniales, pourquoi pas, c'est à toi de me dire.
Ça m'évoque très fortement. Mais bon, j'ai quelques questions pour finir, mais il y avait notamment et c'est des questions qui sont évidemment issues aussi de ce parallèle que je fais. Alors c'est un parallèle purement, je me dis, qu'est-ce qui peut être utilisé, hein,
c'est cet aspect-là qui m'intéresse, c'est l'idée que des gens sur des domaines étrangers puissent utiliser quelque chose.
Parce que en fait, justement, moi travaillant sur ces élites-là, je voyais bien qu'elles s'alimentaient de migrants européens et pour maintenir une certaine européanité en milieu non européen. Donc je voyais un peu des judéo-converts qui, grâce à l'apport des Portugais, pouvaient maintenir une judéité en milieu non-juif. Et en même temps, cet élément démographique qui permettait à la communauté de vivre s'accompagnait d'un autre qui était la fuite d'éléments du groupe fusion de certains membres du groupe dans la société globale. Dans les sociétés coloniales, c'est le fait que effectivement ça alimente tous les autres groupes entre guillemets métissés, hein. On va mettre tous les guillemets possibles. Alors justement, il y a je t'avais dit une fois, une portugisation de la communauté marane castillane. Est-ce que cela veut dire que les éléments les plus castillans ont pu peut-être avoir un autre parcours possible, à savoir finalement se perdre dans l'ensemble des castillans catholiques vieux chrétiens?
C'est vrai qu'on a du mal à voir. Alors il y a certaines études, comme les études de Charles Amiel sur certaines populations au XVIe siècle de la Manche qui ont été poursuivies en inquisition, où on voit en tout cas le maintien de foyers des crypto-judaïsants. C'est vrai qu'on a du mal à les voir, en tout cas dans les sources. C'est vrai aussi que le grand courant historiographique tend à dire qu'il y a une forme d'assimilation dans la société espagnole, des mariages mixtes, qui expliquerait d'ailleurs le succès des statuts de pureté de sang au milieu du XVIe siècle, qui serait un peu une réaction justement à cette assimilation. En tout cas, effectivement, il manque encore, ça c'est vrai que ce serait un projet, de voir un peu quels sont les rapports avec les judaïsants purement, dirons-nous, hispaniques, qui n'auraient pas bougé durant, effectivement, plusieurs dizaines d'années, et les nouveaux arrivants. C'est vrai qu'on manque de travaux sur ces contacts, on manque de travaux aussi sur ces judaïsants après le XVIe siècle. Donc c'est vrai que ça reste un mystère.
Parce que là, l'Amérique est intéressante, parce que justement, on sait qu'il y a beaucoup de judéo-converts qui sont partis aux Indes et qui se sont fondus dans les populations créoles, parce que ce qui était plus important là-bas, c'était d'être hispanique.
Voilà, ça dans ce cas-là, oui.
Mais du coup, ça a permis cette fusion. Ça a permis cette fusion. Donc peut-être que ça, et là, il y aurait des choses encore à rechercher, parce que c'est le pendant. Voilà, c'est les réflexions que m'inspire la comparaison avec le terrain colonial. Et une dernière, c'est tu dis, chaque marane utilise les référents qui lui sont proposés tant par la micro-société crypto-judaïsante que par la société espagnole pour fabriquer son moi. Mm. Je trouve ça, cette phrase très, très jolie. Et encore une fois, moi, travaillant sur des groupes de coloniaux d'origine africaine, je me dis, mais je pourrais l'appliquer à ces gens-là aussi. Effectivement, on a autant de parcours et autant de bricolage où les gens font ce qu'ils peuvent avec leur legs culturel et ou phénotypique ou tout ce que tu voudras, et on pourrait faire ce parallèle-là. Moi, je me dis souvent que voilà ce que tu disais tout à l'heure, les sociétés coloniales sont des sociétés où l'on voit apparaître en plus évident, ouais, des choses qui ont fait ou des phénomènes qui ont lieu ailleurs, sauf que là on a des groupes, on a une présence, une coexistence de groupes qui sont de phénotypes différents, donc on les voit apparaître plus clairement. Ouais, ouais. Mais finalement, et que ça donne des phénomènes spécifiques, ouais, n'y ont rien. Mais en même temps, on voit apparaître des rapports comme cela qui sont tout à fait spécifiques et qui me font toujours penser à cette phrase de Tocqueville disant que l'ancien régime était compréhensible de manière immédiate au Canada et pas en France. Est-ce que tu crois que ton laboratoire Marane pourrait suivre ce même type de métaphore comme ça? Est-ce que le laboratoire Marane, en fait, nous permet de voir en situé et en petit des éléments qui sont en train de travailler différents groupes au sein des sociétés européennes à la même époque?
J'espère. J'espère, en tous les cas. J'ai tendance à le penser, même si, effectivement, il y a quand même cette notion de répression et de secret qui est fondamentale et qui, pour moi, effectivement, distingue, ce que je disais tout à l'heure, le maranisme tel que je l'entends et, par exemple, des autres formes de crypto-judaïsme européen en l'absence d'inquisition. C'est-à-dire que c'est effectivement la présence des institutions répressives et la dialectique entre les individus et et cette institution est un phénomène, effectivement, qui modifie un peu la donne. Mais je pense tout de même que, là encore, la réaction, le rapport au groupe, cette notion de communauté, indépendamment justement de cette forme de répression extrême, mais dans des formes de contraintes plus réduites, de minorité, ou même aujourd'hui, de rapport à la communauté, le retour du communautarisme, à certains égards, cet attachement au groupe et cet excessif, enfin pas excessif, en tous les cas très marqué, il y a effectivement des ponts. Enfin, je sens effectivement des ponts et voilà, j'espère que certains d'autres que moi et d'autres que toi les sentiront aussi. Merci beaucoup de ta lecture.